Et à 7h48, Léa Salamé, votre invité ce matin est l'ancien conseiller en communication de François Hollande.
Bonjour à vous Gaspard Ganzer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez 39 ans, vous avez donc été conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée, poste que vous avez occupé avant cela aux côtés de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Être conseiller de l'ombre ne vous suffisait pas, vous avez maintenant envie de prendre la lumière ?
Je recherche pas la lumière, en fait, je cherche à être utile. J'ai souvent conseillé des hommes et des femmes politiques, Bertrand Delanoë, François Hollande, Laurent Fabius. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'engager personnellement, mais pas seul, collectivement, avec un mouvement parisien pour trouver des nouvelles idées pour Paris.
Donc vous êtes candidat à la mairie de Paris, vous venez de nous le dire ce matin.
Oui, je suis candidat à la mairie de Paris parce que je pense qu'il faut améliorer la vie quotidienne des Parisiens. La ville est dégueulasse, elle est de moins en moins sûre, les transports fonctionnent pas, les logements sont chers. Il y a beaucoup à faire pour cette ville.
On va parler de ce que vous dites et de la ville de Paris, mais vous êtes candidat à la mairie de Paris, un de plus, si vous me permettez, entre les déclarés et ceux qui s'apprêtent à se déclarer. Qu'est-ce que vous êtes nombreux ? Il y a Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi, Cédric Villani, Julien Bayou, Pierre-Yves Bournazel et j'en oublie. Ils m'excuseront, c'est plus une élection, c'est un concours de beauté. Qu'est-ce que vous avez tous avec le poste d'Anne Hidalgo ?
C'est beau la démocratie, parce que dans la démocratie, on peut confronter des projets, des idées, des personnalités. Et il faut se réjouir que beaucoup de gens aient envie de relever les gants à Paris pour proposer de nouvelles idées. Moi, je me réjouirais tout le temps qu'il y ait beaucoup de candidats. Ce qui serait horrible, ce serait que les élections soient verrouillées d'avance. Non, les élections ne sont pas jouées d'avance. Il peut y avoir des surprises si on arrive à avoir des bonnes idées.
Quelle est votre valeur ajoutée ? Quelle est votre légitimité à diriger Paris ? Pourquoi on votera pour Gaspard Ganzer, qui n'a pas d'expérience autre que d'être conseiller en communication plutôt qu'un autre ?
J'ai fait bien d'autres choses dans ma vie. J'ai créé une entreprise, j'ai travaillé pour l'État. Je me suis engagé tout au long de ma vie. Je suis né à Paris, j'y ai grandi, j'y élève mes enfants. Et surtout, avec les Parisiennes et les Parisiens, le mouvement qu'on a fondé il y a maintenant un an, nous sommes allés à la rencontre des Parisiennes et Parisiens pour parler de leurs problèmes et trouver des solutions avec eux. Et on a des idées pour faire baisser la pollution, des idées pour améliorer les transports publics, des idées pour agrandir Paris. Et je pense que ce sont les idées qui permettront de remporter la campagne parisienne et pas la beauté ou les personnalités, parce que ça, je pense que ça n'intéresse pas les Parisiennes et les Parisiens.
Et malheureusement, est-ce que c'est pas le risque que ça se transforme en un concours de personnalités, là ? On parle pas tellement d'idées. Hein.
Bah,
on dirait on est à un an du vote, mais...
Moi, je vais vous parler des idées.
Mais ce que j'ai l'impression, c'est un concours de personnalités.
Moi, je vais vous parler des idées, Léa Salamé. Moi, je suis pour détruire le périphérique parce que c'est un axe pollué et inefficace qui coupe Paris en deux.
Vous voulez détruire le périphérique ? Ça coûte très cher de détruire le périphérique.
Non, c'est exactement l'inverse. Ça fait gagner beaucoup d'argent parce qu'on récupère en réalité l'équivalent d'un arrondissement de Paris en surface pour construire des logements, des espaces verts, des équipements publics, mais aussi des bureaux. Donc c'est une opération qui est plus que bénéficiaire.
Oui, qui sera rentable à terme, mais sur le coup, ça va coûter combien ? Des centaines
non,
de millions ?
Non,
vous avez évalué combien ça coûterait de détruire le périphérique ?
En fait, ça va rapporter
à
de l'argent.
Terme.
Non, parce qu'en réalité, je suis désolé de vous faire un cours de promotion immobilière, mais ce sont les personnes qui construisent les logements, qui financent les travaux, parce qu'on va acheter le foncier est très rare à Paris, donc quand vous en avez en plus et que vous pouvez le mettre à disposition, eh bien vous gagnez beaucoup d'argent.
Vous dites Paris est dégueulasse, de moins en moins sûr, les transports publics ne fonctionnent pas, en matière de pollution c'est un échec. Ce matin dans Le Parisien, Anne Hidalgo défend son bilan, affirmant qu'elle a créé une police municipale de 3200 agents, que la pollution est son combat numéro 1, elle affirme que les particules fines ont baissé de 10% ces dernières années. Vous n'y croyez pas ?
Ah ben non, j'y crois pas du tout. Il suffit de lire Le Parisien aujourd'hui dans le même journal pour exactement voir le contraire. Il y a de plus en plus de pollution à Paris.
Elle cite une étude qui est comparative de Londres et d'autres villes où elle affirme que de 2000 à 2016, la pollution aux particules fines a baissé de 10% à Paris.
Je crois que c'est faux. C'est exactement l'inverse qui est dit justement par Le Parisien dans le même journal. Et surtout, il suffit de demander aux Parisiens qui ont des bronchiolites, aux gens qui ont les yeux qui piquent, aux enfants qui toussent, si on respire bien à Paris. Moi, personnellement, je fais la course à pied. Je peux vous dire que c'est un enfer de courir partout dans Paris parce qu'on y respire très très mal. Et ce sont souvent d'ailleurs les quartiers populaires qui en souffrent le plus, notamment sur les périphéries. Porte de Bagnolet, je suis allé récemment visiter une école qui est sur le bord du périphérique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les enfants quand ils jouent à la balle en mousse ou à la balle au mur, mais la pollution est totalement insupportable dans cette ville.
Elle a eu tort de faire la guerre à la voiture ?
Non, on a raison de vouloir réduire la place de la voiture, mais il y avait peut-être des façons plus intelligentes et efficaces de le faire. Moi, je suis pour le 100% électrique, par exemple. Je pense qu'il faut inciter les gens à abandonner leur véhicule à essence polluant pour passer à l'électrique. Je pense qu'il faut faciliter la marche à pied dans Paris. Or, la ville est dégueulasse. Il y a des scooters qui embordent les trottoirs, des trottinettes, des vélos, et on peut plus marcher parce qu'il y a des trous dans la chaussée et dans les trottoirs. Je suis pour développer le vélo, mais pour le faire de façon aussi intelligente. Et je suis pour créer des alternatives en matière de transport public, notamment en investissant dans le métro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous savez que l'endroit le plus pollué de Paris, c'est le métro.
Oui,
parce qu'on n'a justement pas fait les investissements nécessaires pour améliorer l'aération dans le métro.
Gaspard Ganzer, vous avez quitté le PS il y a 2 ans. Mmh. Est-ce que vous êtes toujours de gauche ?
Je viens de la gauche, mais aujourd'hui, quand je réfléchis à la sécurité des Parisiens, à la propreté de cette ville, je réfléchis plus à partir de la droite ou de la gauche. Je pense que ça n'a aucun sens. Est-ce que vous-même, vous savez ce que c'est d'être de gauche aujourd'hui?
C'est à vous de me l'expliquer. Vous dites je suis né à gauche.
Je pense que la gauche ne sait plus qui elle est et où elle va. Moi, j'ai un peu envie de me préoccuper de savoir si la gauche c'est ça, la droite c'est là. Je veux pas réinventer le centre.
Vous pensez comme Emmanuel Macron que ça n'existe plus, la gauche et la droite?
Je pense qu'il y a des clivages sur les questions écologiques, sur les questions européennes, sur les questions de sécurité. Mais je crois que la gauche est elle-même incapable de se définir, d'ailleurs, tout comme la droite. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres combats. Mon combat, c'est Paris et les Parisiens.
Vous aviez été un éphémère candidat à La République en Marche aux élections législatives la dernière fois à Rennes, avant d'abandonner finalement. Certains peuvent se demander si vous ne rallierez pas à la fin Emmanuel Macron et La République en Marche.
Ah non, ça n'arrivera jamais, parce que quand je me lance dans une bataille, c'est pour y aller totalement et jusqu'au bout. Il y aura ni ralliement, ni rustine à porter aux uns et aux autres. Si on s'est lancé avec les Parisiennes et les Parisiens, c'est pour aller jusqu'au bout.
Mais est-ce que vous dites que vous êtes Macron compatible, par exemple?
Moi, je ne réfléchis pas à partir des personnes ou des étiquettes, je réfléchis à partir des idées. Qu'est-ce qu'il propose pour les familles?
Est-ce que vous êtes Macron compatible pour les idées?
Enfin, au niveau national, je reconnais par exemple son combat européen, mais par exemple, je pense que dans le domaine écologique, il n'a pas fait grand-chose. Je pense que la politique qu'il a menée en matière fiscale ne me plaît pas non plus. Après, je souhaite que mon pays réussisse, mais moi, je me bats pas pour des questions nationales, je me bats pour des questions parisiennes. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de la place pour les familles, que la ville arrête de perdre 12 000 habitants par an, comme c'est le cas depuis 5 ans, et qu'on trouve enfin des solutions pour les gens.
Emmanuel Macron, c'était votre camarade de promo à l'ENA. Vous avez travaillé 2 ans avec lui quand François Hollande était à l'Élysée, que vous étiez tous les deux son conseiller. Qu'est-ce que l'ancien conseiller en communication que vous avez été, pense du grand débat national et notamment de cet exercice inédit d'un président de la République qui descend dans l'arène pour répondre aux questions pendant 4, 5, 6 heures. Est-ce qu'il a raison de le faire?
Au départ, je trouvais l'idée extrêmement séduisante parce qu'elle permet de renouveler la démocratie, ça lui a permis de sortir de l'ornière. Je pense que les gens ont un besoin de libération de la parole et c'est d'ailleurs ce qu'on fait nous à notre humble niveau, au niveau parisien. En revanche, là maintenant, je trouve que c'est en train de mal se terminer parce qu'en fait, on voit plus la fin. Ça devait se terminer le 15 mars, maintenant ça se termine le 15 avril. Bientôt, on va nous annoncer que ça se terminera le 15 mai et entre-temps, il y a des élections européennes. Donc on aimerait savoir, est-ce que le président de la République il fait un grand débat national ou est-ce qu'il fait une campagne pour les élections européennes? On a le droit de s'engager dans un combat électoral, mais dans ce cas-là, il faut que les choses soient dites et elles soient saines. On ne peut pas tout faire à la fois.
Vous avez l'impression qu'il a repris la main ces dernières semaines?
Ah ben incontestablement, il était quand même au fond du trou au mois de décembre. On se demandait même pour certains s'il allait terminer son mandat. Il faut reconnaître qu'il a eu le talent de rebondir. Mais l'idée, c'est pas de rebondir comme une compétition sportive. L'idée, c'est d'avancer pour la vie des gens. Ce qu'il faut, c'est des actes et des décisions.
Donc vous attendez les actes et les décisions d'Emmanuel Macron?
Oui, parce que ça fait quelques semaines qu'on les attend. Ouais.
François Hollande est sans doute l'ex-président le plus présent dans la vie politique après l'Élysée. Il parle presque toutes les semaines à la radio, à la télé, dans les journaux, sur Internet. Il a raison ou il devrait se faire un peu plus rare? Qu'en pense son ancien conseiller en com?
Alors, j'ai un privilège aujourd'hui, c'est que je ne suis plus son conseiller en communication. Donc, à la fois, je n'ai plus à lui donner de conseils. Il ne les écoutait pas toujours, d'ailleurs.
Et vous pouvez dire la vérité.
Mais
en plus.
Enfin, je vais pouvoir soulager ma conscience. Non, écoutez, je pense qu'un ancien président a le droit de s'exprimer dans le débat public. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il renoncerait à sa parole dans le débat public. Il peut le faire sur des causes importantes comme les questions européennes. Il l'a fait. Après, il ne peut pas être un commentateur. Je crois qu'à un moment donné, il s'était beaucoup exprimé sur la question des gilets jaunes. Il l'a regretté lui-même. Donc, un peu de self-restrain, comme on dit chez les Britanniques, c'est pas mal, y compris pour les présidents de la République et les anciens présidents de la République.
Vous n'êtes plus au PS, mais le PS a fait, il y a quelques semaines, l'inventaire du quinquennat de François Hollande. Olivier Faure a parlé d'une absence de vision et de trahison des idées de gauche. Vous en pensez quoi?
Ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Je trouve qu'il y a un côté réunion d'alcooliques anonymes qui sont en train de se demander tous les jours qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Enfin, les thérapies collectives, elles fonctionnent bien quand elles sont à huis clos, pas quand elles sont sur la place publique. Vous m'interrogez tout à l'heure sur la gauche. Honnêtement, j'ai plus envie d'avoir ces débats de vieille chapelle avec plein d'apparatchiks. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens et c'est pas des querelles d'appareils.
Gaspard Ganzard était notre invité. Belle journée à vous.
Merci.